France Info.
Bonjour Alex Lutz.
Bonjour.
Vous êtes cet artiste pluridisciplinaire, tour à tour acteur, humoriste, metteur en scène, auteur de théâtre, romancier, réalisateur. Ce qui pourrait finalement résumer au mieux ces multiples casquettes serait de dire que vous êtes un raconteur d'histoire et même un conteur d'aventures. Votre plus grande aventure, celle du jeu, a débuté sur les planches, très vite repérée. Hein. Vous avez intégré une troupe, celle des Foirades. Il n'en fallait pas plus ni pas moins d'ailleurs pour que vous compreniez définitivement que votre avenir mêlerait l'humour et la scène, le théâtre, le petit, le grand écran, tout ce qui peut être finalement un terrain de jeu, d'expression ou d'amusement. C'est Sylvie Joly qui vous a donné confiance en vous professionnellement au point de vous convaincre de monter sur scène avec un premier one-man show. Et c'est véritablement votre incarnation de la secrétaire Liliane dans la revue de presse Catherine et Liliane sur Canal+, apparue en 2012, qui vous a offert une superbe rencontre avec le public. Depuis, vous êtes devenu l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma, de la télé, de la scène, et avec pas moins de 2 Molières à la clé, un César, celui du meilleur acteur pour votre rôle dans le film Guy, que vous avez d'ailleurs vous-même réalisé. Votre dernière réalisation, Connemara, vient de sortir au cinéma. C'est l'histoire d'une femme, Hélène, incarnée par Mélanie Thierry, la quarantaine, qui quitte Paris pour tenter de soigner un burn-out. Donc elle retourne dans sa ville natale. Dans ce retour rempli de souvenirs, elle retrouve ce qu'on appelle un crush, son crush de l'époque, son amoureux de l'époque, qui était donc un hockeyeur. C'est une adaptation du roman de Nicolas Mathieu. Avec ce film, vous nous proposez finalement un tête-à-tête avec la vie, avec le couple, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait mal, ce qui nous galvanise. C'est un portrait à la fois féminin et masculin. C'est là où vous avez été très malin. Et c'est basé finalement sur l'importance d'aimer et d'être aimé.
Oui, c'est curieux parce que l'écriture des romans de Nicolas sont pas monothèmes, quoi. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose avec les contradictions et les complexités du cœur et de l'âme de ces personnages à chaque fois. Et c'est ces complexités-là qui créent l'histoire. C'est déjà vrai avec Aux animaux la guerre, Leurs enfants après eux, et celui-ci aussi. Alors après, il met plus ou moins le trait sur un trait plus social ou un trait plus sentimental ou quoi. Mais il y a toujours ce qui fait histoire, petite histoire et grande histoire, c'est le sel humain, quoi. J'étais très heureux d'adapter ce roman parce que je crois fort à ça. C'est-à-dire que l'actualité telle qu'on la vit, elle n'est pas une espèce de chose qui serait l'actualité et puis il y a nous. C'est pas vrai. On est et on participe à la fabriquer, à la constituer. Les tendances des époques successives, c'est quand même notre sel humain, individuel d'abord, puis collectif, puis voilà. Effectivement, il y a tout ça dans ce roman et il y a ce portrait de femme tout de même, oui, ce retour. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir quelque part, quoi.
Le roman, il parle de la colère, d'abord.
C'est la première phrase du livre, oui. Voilà. La colère venait dès le matin.
Et vous la transformez, cette colère, en amour et en zone positive grâce au regard de l'autre.
Oui, enfin, c'était une des phrases qui me marquait le plus dans le roman, cette première phrase où elle pense comme ça, la colère venait dès le matin, il suffisait qu'elle pense à tout ce que sa charge mentale de femme, de mère, d'épouse, de winneuse dans sa société, elle a un très gros poste parisien, elle a tout coché juste, et la colère est quand même là. Et la colère, est-ce que c'est sa colère? Est-ce que c'est une colère qu'on se transmet? Est-ce que c'est une colère qui se transmet aussi de mère en fille? Cette preuve perpétuelle, c'est un personnage qui est en preuve. Et qui, dans sa jeunesse adolescente, devait peut-être pas être celle que tout le monde voyait au lycée, quoi. Donc, elle est devenue cette femme puissante à force d'efforts et en cochant toutes les cases du méritoire bien français, quoi. Et puis, tout d'un coup, ça va plus. Elle revient. Ça continue à pas aller si bien. Elle pense que ça va être, comme on dit, pour la qualité de vie, on s'est rapproché de ses proches, de ses parents, etc. Et puis, le hasard fait qu'elle recroise un bout d'adolescence avec Christophe Marchal, le beau gosse du lycée, effectivement. Et tant qu'ils arrivent va rendre leur liaison hermétique dans cette espèce de drôle de chambre d'hôtel qui est pas phénoménale, mais comme elle dit, j'aime pas cette chambre d'hôtel, mais elle est à nous, c'est un endroit à eux. Et alors là, tous les espoirs d'amour et de plénitude sont possibles. Et puis dès que ce lieu devient à nouveau poreux, à leur vie respective, à leurs emmerdes respectives, au corps social compliqué, alors là, ça devient à nouveau compliqué.
Vous avez pris énormément de plaisir d'ailleurs, ça a pas dû être simple, à filmer le corps d'avant, le corps devenu, comme vous le dites, et le corps social.
En fait, je voulais articuler le film, notamment dans la phrase sur la colère. Elle dit tout ce qu'elle a à faire, tout ce que le temps lui prend, tout ce que ça coûte, même ses cheveux qu'elle dit, elle a failli la couper 10 fois pour retirer le soin hebdomadaire que ça lui coûte, justement. Et j'avais trouvé cette phrase si simple et si belle, quoi. Elle dit fallait-il qu'on prenne ça, même ça, ce trésor de l'enfance, ses cheveux, comme ça. Alors, j'avais imaginé juste une image subjective de cette jeune fille se faisant elle-même une tresse. Et je trouvais que le film devait respecter cette grammaire-là, avec le corps en devenir, donc le souvenir de ce qu'on souhaitait à l'adolescence, quoi, quand toutes les projections sont encore possibles. Un des premiers bilans lourds vers la moitié de vie, comme ça, le corps devenu. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Qu'est-ce qu'est devenu ce Christophe Marchal? Qu'est-ce qu'est devenu sa ville? Et le corps social, cette espèce de truc contre lequel on ne peut pas grand-chose, en fait, et qui nous détermine tant aussi.
Alors, on ne peut pas grand-chose, mais on peut changer notre vie. C'est aussi ça, ce film. Et c'est aussi ça, ce livre. C'est-à-dire, c'est une façon de nous secouer un peu en nous disant, le sablier, il s'écoule. Et de rester, en tout cas, dans une vie de couple où on ne s'épanouit plus, où on a besoin de retrouver cette flamme, n'est pas forcément une bonne solution. Il y a ce côté garder, quitter.
Il y a garder, quitter, partir, revenir. Il y a cette étreinte avec ce Christophe Marchal. Je ne dévoile pas le film, mais bon, beaucoup de gens ont lu le livre. Ça ne veut pas dire non plus partir pour trouver le Graal forcément ailleurs. Parfois, il faut faire un pas de côté, changer de direction. Et puis, vous avez des histoires qui sont des transitions dans vos vies aussi. Des transitions qui sont essentielles pour revoir sa copie, quoi. En tout cas, ça sert quand même à ça, de revoir un peu sa copie, la vie. Mais il y a ce truc très fort aussi chez Nicolas Mathieu, et que je partage quand même, c'est à la fois un espoir et beaucoup de foi dans l'idée du changement, en même temps que tout ne change pas. Et est-ce que c'est si dramatique que tout ne change pas? C'est pas... Voilà, ça aussi, c'est aussi un mélange de fantasmer le changement et puis d'accepter ce qui est. D'ailleurs, c'est très bien incarné par ces deux personnages. Il y a Hélène qui est comme ça dans ce mouvement. Elle trouve son équilibre peut-être par les chemins de traverse, par la fuite, par le départ. Christophe est quelqu'un d'ancré, davantage ancré. Est-ce qu'il a loupé quelque chose dans sa vie parce qu'il est très ancré, qu'il n'en a pas bougé? Pas sûr, je ne suis pas sûr du tout. Donc le film ne donne pas non plus de réponse à ça, et le livre non plus. On sort de ces deux histoires en se disant tout est possible, quoi.
Ça questionne en tout cas, ça c'est certain. Il met en exergue quand même la puissance d'une relation, à quel point l'autre nous rend vivants. Est-ce que la beauté n'existe pas réellement effectivement dans le regard de l'autre?
En tout cas, il n'y a rien qui existe pour nous sans l'altérité, qu'on le veuille ou non. Même la haine, hein, je veux dire, les gens qui haïssent, ils ont besoin d'ailleurs des gens, quoi. Enfin, c'est rare de se dire, tiens, je hais ce rocher. Même la haine du reste de l'humanité, c'est un lien avec le reste de l'humanité, et c'est souvent une envie d'amour malheureuse, quoi. Donc tout ça est très lié, et bien sûr, la beauté existe par l'autre, avec l'autre. Dans cette espèce de tentative, l'étreinte, c'est beau, une étreinte, quoi. C'est quand même un truc où on essaye de se mélanger. Voilà, le film montre ça aussi.
C'est très charnel, effectivement. On voit à quel point ces deux corps ne font plus qu'un à certains moments. C'est assez perturbant, d'ailleurs. On a l'impression d'être dans la chambre d'hôtel, pas loin du lit. Vous nous prenez vraiment par la main et vous prenez le temps aussi. Il y a une rythmique que vous êtes imposée, qui est évidemment plus accélérée qu'une vie réelle, mais en attendant, on prend le temps de réfléchir, de regarder, de ressentir. Oui. J'ai l'impression que c'est le sujet principal de ce que vous faites de votre vie.
C'est ce que je préfère, oui. C'est ce que je préfère traficoter et analyser... Comment notre conversation là, elle est quand même émaillée de la conversation qu'on a eue juste avant quand vous étiez au maquillage, en même temps qu'on pense à sa journée d'après ou son temps d'après. Bon, je trouve que c'est toujours une matière qui est tellement curieuse, le temps. Et puis en vieillissant, on trouve que ça s'accélère. Alors, est-ce que ça s'accélère vraiment, ou est-ce que c'est notre expérience qui fait qu'on connaît un peu plus la chanson? Je trouve que c'est passionnant. Et que c'est vraiment, je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai, le sujet de tous nos espoirs, de tous nos grands drames, de tous nos grands malentendus. Je trouve que c'est souvent avec cet ingrédient-là qu'il y a les plus beaux romans, les plus beaux films. Quand on est ému au cinéma, qu'on se dit « Oh, c'est pas vrai, oh, flux, trop tard, trop tôt, trop truc. » Bon, voilà, je trouve ça toujours touchant, le temps. Ouais.
L'un des fils rouges reste aussi le désir.
Ouais.
Je voudrais que vous me parliez de ce mot, parce que vous êtes réalisateur de ce film et vous êtes allé chercher dans votre imagination aussi, là où vous êtes pour la première fois réellement imposé, c'est-à-dire qu'il y a une partie du livre qui vous manquait, et vous allez la chercher en essayant de coller justement et sans dénaturer le texte Nicolas Mathieu.
Déjà on en parle, moi je trouve ça super. Il y a des passéistes qui trouvent que tout ce qui est d'aujourd'hui c'est nul et c'était mieux avant. Moi je trouve pas quand même, je trouve qu'il y a plein de choses super mieux. Et tous les mouvements qui ont interrogé nos sociétés les derniers temps et nous obligent maintenant de plus en plus dans les films d'avoir faire appel à des coachs en intimité, etc. Moi, j'étais le premier à regarder ça en tordant du nez, en me disant « Oh, qu'est-ce que c'est encore que... » Plutôt en tant qu'acteur, d'ailleurs, à l'époque, quand on m'en avait parlé, je me disais « Oh là là, est-ce que je supporterais que quelqu'un vienne se mêler en plus du réalisateur ou de la réalisatrice et tout ?» Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est comme on se pose pas la question pour un régleur de cascade. Si on se prend une baffe dans une scène de fiction, on la règle, on l'organise, on voit comment ça se met en place dans le dialogue. Et puis cet endroit de violence, il se positionne de manière juste et du coup dramaturgiquement juste. Et là, c'est pareil, en fait. Le nombre de fois avec les scènes d'amour où, vu que tout le monde est un peu gêné, et souvent les réals, en fait, disent « bon, sentez-le, machin », donc Bon, alors une fois que vous avez accéléré, vous avez pris contre un mur ou que vous êtes rentré dans un appartement vous déshabillant comme ça n'arrive jamais dans la vie, c'est quand même vachement bien d'imaginer ces scènes, de les regarder en face, de dire « Ah, tu sais quoi, moi ça me gêne ça, ah bah moi tu parles, ça me fait rougir, ah bah ça moi je suis pas à l'aise avec ça, ah bah ça moi ça me dérange pas » et tout ça. Du coup ça crée beaucoup de rire et puis ça crée une vraie chorégraphie. Et du coup ça sert le film, parce que dans ce film effectivement, bah, elle le dit d'ailleurs, on a 40 ans, on n'est plus très dégourdis, on sait plus trop faire, ils se remettent un peu sur le marché, lui sort de son divorce, elle quitte son mari, ils sont ensemble depuis 20 ans. Et bah oui, la première scène d'amour, c'est une de mes préférées, c'est une des plus longues. Il n'y a pas grand chose, ils s'embrassent pendant des plombes. Puis il y a quelque chose qui n'arrive pas trop parce qu'ils sont encore un peu maladroits. Et puis, du coup, la deuxième scène, on l'imagine autrement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans la relation. Puis la troisième, elle est encore peut-être différente parce que peut-être qu'ils sentent le danger de leur relation en danger. Donc c'est passionnant à travailler. Avec les outils d'aujourd'hui aussi, je trouve.
Vous montrez notre âge qui avance et le fait qu'on grandisse, mais on vieillit aussi. Encore une fois, dans une optique de ne pas avoir de regrets, quoi, d'éviter les regrets.
En tout cas, je les montre. Si on peut ne pas s'enquister de malentendus et de non-dits, c'est toujours sympa. Après, je les montre aussi en disant, bah, c'est ainsi, pardonnez-vous. On en est tous là, d'avoir l'espèce de discussion agacée à Noël avec son parent, et puis de repartir dans sa ville en famille, le coffre plein, regrettant, ayant espéré que ça soit passé autrement, qu'on aurait voulu dire à machin ou à la belle-sœur, mais on l'a pas dit, mais on est embêté, on culpabilise, je sais pas quoi. Tout le monde est enquisté de ces trucs-là. Mais c'est vrai que nous, avec le cinéma, avec le théâtre, quoi, on peut montrer ça pour tout d'un coup se le prendre et se dire « Oh là là !» Mais ça fait partie du lot, hein, les regrets, voilà quoi.
Le fait de réaliser, ça représente quoi pour vous, Alex? Parce que vous adorez être aussi dirigé, ce que vous expliquiez, même coaché. Mais là, pour le coup, c'est vous le maître du jeu. C'est vous le chef d'orchestre. Et on sent d'ailleurs que vous prenez de plus en plus de plaisir à réaliser, à vous occuper des acteurs, à leur laisser leur espace. Il y a beaucoup de nuances chez Mélanie Thierry dans ce rôle.
Ah bah, elle est merveilleuse. Lui, il est merveilleux. Je les salue parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais Mélanie Thierry et Bastien Bouillon, c'était un rêve de les avoir. Ils ont mis une telle juste énergie pour leur personnage. Ils ont tellement pigé le truc. Donc déjà, c'est surtout un plaisir un peu, comment dirais-je, c'est une carte premium d'être réalisateur. Vous avez l'avant-première avant tout le monde, quoi. Vous êtes premier spectateur de talent que normalement vous payez pour aller les voir. Déjà, vous, c'est super, vous êtes convoqué le matin pour pouvoir les voir et les voir vous étonner et tout ça. Et puis j'adore les acteurs et les actrices. Ça se marie avec ce que je faisais beaucoup plus au début, vraiment de la mise en scène de théâtre. J'ai mis un peu plus de temps à jouer, moi, à me sentir pas trop mal avec ça. Donc je retrouve ce jus-là que j'adore. Et puis vous le disiez, c'est entre autres manières une façon de raconter des histoires, que ça soit la peinture, l'écriture, la réalisation. J'ai jamais su choisir, mais parce que c'est très juste ce que vous disiez. J'ai besoin de raconter des histoires et tout ce qui peut être un outil pour les raconter m'intéresse. Je me sens artiste, quoi, disons. Je me sens pas plus réalisateur, auteur, je me sens artiste. Je suis pas physicien, ça je le sais, je suis pas ingénieur, je suis pas informaticien, mais artiste je le suis, je crois.
Ce qu'on comprend aussi à travers ce film, Connemara, même si ça part encore une fois d'un livre que vous n'avez pas vous-même écrit, c'est le chemin que vous parcourez depuis des années, Alex, depuis vos débuts. Effectivement, ça commence avec les foirades, mais cette évolution aussi, le fait que vous faites de plus en plus confiance. On sent qu'en tout cas, il y a un travail, un chemin que vous parcourez et que le regard que vous nous offrez, c'est aussi le regard que vous portez vous sur les autres et sur la vie.
Oui, oui, oui.
C'est en ça d'ailleurs que ça nous touche, c'est que vous trichez pas.
Mais c'est très juste en l'histoire du chemin. Vous parliez du César tout à l'heure, je suis très heureux et très honoré, mais quand je l'ai reçu, j'ai dit cette espèce de machin voluté, cabossé, me fait penser à une route sinueuse. Et moi, j'aime beaucoup raconter, construire une carrière avec l'idée du chemin. D'un chemin où, voilà, parfois, il faut débroussailler un peu, il faut se dire, mince, on va passer par la merde, on s'est trompé, bon, c'est là-bas, est-ce que t'as le GR, machin, bon. Il n'y a rien de plus chouette que de se retourner sur un chemin et de voir un chemin. L'image du chemin me plaît bien, en tout cas.
Vous mêlez beaucoup de choses. À un moment donné, on voit Hélène qui échange beaucoup avec sa mère, et sa mère, elle lui transmet ses angoisses, ses peurs. On se demande d'ailleurs comment on fait quand on est enfant pour absorber ses peurs, finalement, et pour pas les recréer nous-mêmes. Il y a un énorme travail de transmission aussi dans tout ce que vous faites. Espèce de passage de témoin systématique. Qu'est-ce qu'on garde de notre enfance?
Ouais,
j'espère,
ou en tout cas de le regarder. C'est pour ça que je dis souvent, je suis pas nostalgique de regarder ça aussi avec vérité. Parce que on m'a souvent dit, vous avez un regard nostalgique parce que je me retourne sur le passé. Mais c'est plutôt que je regarde objectivement le passé. Si j'aime bien regarder les années 30, c'est pas pour me dire, tiens, c'est intéressant les années 30. Oh là là, quelle jolie patine. C'est pour me dire, tiens, il y a déjà ces ingrédients-là. Ah là, ça va déjà pas comme ci, comme ça. Ah mince, on a reproduit le truc. Bon, et dans une famille, c'est la même chose, ou dans un groupe d'amis, il y a eu des super livres, là. Je pense à Patronyme de Vanessa Springora, qui est formidable pour ça. Il y a Mon nom est Elisabeth, qui est super pour ça. Je vous encourage à lire ces livres-là, qui sont super, sur ce qu'on reproduit, ce qu'on a peur de reproduire, sur ce qu'on reproduit sourdement. Il y a le livre de Guillaume Gallienne aussi. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a aussi plein d'auteurs, d'autrices et de gens qui aiment bien observer, pour regarder objectivement et peut-être conjurer un peu.
Ce film, effectivement, nous confronte au déterminisme nos vies. Il nous pose la question de savoir si on est heureux, c'est quoi d'être heureux. C'est quoi d'être heureux, Alex Lutz ?
C'est quoi d'être heureux ? J'ai entendu une très belle définition, je ne sais pas si c'est la bonne. C'est Vincent Delerme que j'ai entendu dans une émission, il a dit un truc beau, il a dit « c'est de voir le pardon dans le regard de quelqu'un à qui on a fait de la peine ». Et ça, je trouve que c'est vachement beau. Quand le lien est fort, et puis quand si le lien se détisse un peu, et si le lien se refait, c'est quand même super. La qualité du lien, c'est quand même un truc qui me rend heureux. Le reste, on a plus ou moins d'emmerdes, quoi.
Il y a énormément de poésie dans tout ce que vous faites. Il y en a beaucoup dans Connemara. Ça, on l'obtient que quand on a un côté romantique. En tout cas, qu'on aime regarder la vie. Là, on ne parle pas du tout de nostalgie ni quoi que ce soit, mais qu'on aime regarder la vie, le beau. Vous êtes romantique.
Je crois que je suis romantique, mais pas la rose rouge, les pétales, machin, le champagne, quoi. Bien le vrai romantisme, un peu 19e, tout ça. La contemplation, quoi, disons. Accueillir les sentiments, quoi, les émotions. Et je trouve qu'il y a de la poésie partout. Même dans un truc un peu abscon, qu'on peut se dire « Ah tiens, il y a un peu de poésie. » quoi. C'est super hein, quand même.
Merci beaucoup Alex Lutz d'être passé dans Le Monde Élodie sur France Info.
Merci à vous.
Connemara et ça vient de sortir sur grand écran. Merci beaucoup.
Merci.